bouton était fermé. Bon vendredi, samedi, dimanche sur les ondes de CFAC 88.3 et de CHIS 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Bergeon qui s'installe pour la prochaine heure avec un brin d'actualité et évidemment un tour au cinéma. Que serait un deuxième service sans aller au cinéma? Mais tout d'abord, politique, parce que ça va jouer dur pour une partielle du côté de Québec, du côté de Jean Talon. Les couteaux volent bas. Que ce soit à l'interne, au figuré ou au... J'allais dire au fictif, c'est pas très fictif, mais... Que ce soit à l'interne ou que ce soit public, ça joue off. Le tout a débuté avec Martine Ouellette et son parti Climat Québec. Et tu comptes le tramway pour le troisième lien, en tout cas, une affaire qui n'a pas de bon sens de même. Et la première à s'être lancée dans la course. La seule chef de parti non élue qui se présente à la partielle. Parce que pour l'instant, les conservateurs, dont encore Éric Duhaime, n'ont pas de candidat ou de candidate. Et Éric ne veut pas y aller. En fait, il y aurait été si François Legault avait décidé de ne présenter personne. Parce que selon lui, une bonne démocratie, c'est d'imposer un candidat à des gens qui ne voteraient pas nécessairement pour. Allez savoir. Il disait que ça s'est déjà vu des chefs de parti se faire laisser le champ libre pour une élection. Oui, si son parti est déjà dans l'Assemblée. Jean-Paul Saint-Pierre Plamondon dans une partielle. Et non pas quand ils sont à zéro député. Donc, c'est enchaîné. Québec solidaire. Où les instances du parti ont dit à leurs membres, prenez pas le gars qui l'a déjà fait, mais prenez quelqu'un d'autre. Évidemment, les votants n'ont pas particulièrement apprécié se faire dire quoi faire. Donc, ils ont quand même remis Olivier Bolduc en place. Il l'a déjà fait. La logique voulant qu'il a fini deuxième en plus l'élection précédente, ce serait normal qu'il retourne se représenter que de mettre quelqu'un de complètement nouveau, du coin ou non. Bref. C'est les couteaux à l'interne. Les couteaux à l'externe. Arrive avec la nomination de Pascal Paradis hier, officiellement. Mais ça s'était su dans les médias avant. L'information avait fuité, coulé. Ou en tout cas, on l'avait dit à un journaliste qui n'en parle lui-même. Pascal Paradis représentera le Parti québécois. En ce moment, selon les intentions de vote, le Parti québécois est en pleine croissance. Et comme le Parti québécois et la CAQ jouent à peu près dans les mêmes tâles, à quelques petits détails près, mais sont à peu près le même parti, un au pouvoir évidemment, l'autre non, même qui essaie de se refaire un nom. Ben, on a des conseillers, ou en tout cas des membres de la coalition à venir, qui, voyant le nom de Pascal Plante, Pascal Paradis, pardon, apparaître, se dit, ben voyons, c'est le gars qu'on a approché, nous autres. Puis là, il nous fait faux bond pour aller se présenter contre la concurrence. Qui plus est, une concurrence qui a peut-être des chances de gagner et de ravir un siège précédemment occupé par notre propre formation. On n'est pas très content de tout ça. En tout cas, ça donne bien que le gars en question, c'était... Et là, ça dépend des versions et à qui on demande. Parce que, selon la CAQ, ce serait Pascal Paradis qui aurait demandé à représenter la CAQ. Mais selon Pascal Paradis, c'est eux qui y ont demandé. Déjà là, c'est un peu étrange. Ce qui fait en sorte que des courriels de discussion ont fuité sur Internet ou, dans ce cas-ci, ont été coulés par la CAQ eux-mêmes en disant « Regardez, votre candidat, le PQ, il est pas très fiable, il voulait être dans notre gang il n'y a pas si longtemps. » Sauf que là, selon le principal intéressé, c'était pas un plan dans sa vie nécessairement de faire de la politique. Fait que il est surpris qu'on dise que c'est lui qui voulait faire de la politique, qui plus est, qui voulait être ministre. Rien de moins. Et que l'un des points où ça a chopé cette discussion-là, c'est que pour Pascal, faire la promotion du troisième lien, c'était pas dans ses valeurs, donc c'est pour ça que, entre autres, ça lui tentait pas vraiment, vu que, ben, troisième lien, il croit pas. Et là où ça devient encore plus croustillant là-dedans, c'est qu'on y aurait dit « Non, non, présente-toi quand même. De toute façon, le troisième lien, on risque de ne pas le faire de toute façon, mais on va juste le dire après les élections. » Chose qui, évidemment, s'est produite. Une chose s'est produite. Que... il n'allait pas avoir de troisième lien. Mais on a quand même eu la moitié d'une élection qui a été concentrée sur y aura-t-il un troisième lien, y en aura-t-il pas, y a-t-il des études, y en a pas. Tu sais, on se souviendra que ça a été quand même un gros chiard dans ce temps-là. Et là, on a un éventuel candidat qui est, oui, au premier abord, pourrait avoir l'air girouette de passer d'un parti à un autre, un peu comme l'a fait à une certaine époque Gaétan Barrette, se présenter avec Legault mais être élu avec Couillard, ou encore Gertrude Bourdon tenter de se présenter avec Legault, finalement se présenter libéral et perdre contre Sol Zanetti la première fois qu'il a gagné, oui, c'était pas la dernière, c'était l'autre avant. Gertrude Bourdon, hein, qui voulait devenir aussi ministre. Fait que, tu sais, dans ce cas-ci, il y avait beaucoup de ressemblances de partir de la CAQ et s'en aller vers un ancien grand parti. Gertrude, les libéraux, Pascal, le PQ. Mais finalement, qui dit vrai et surtout... qui dit vrai fait le plus mal à l'autre? Parce que oui, dans un sens, ça part mal d'essayer d'établir une crédibilité politique en disant « Ah, mais là, s'il fait juste changer de parti de même parce que ça y tente plus avec un ou l'autre, ben il est assez flexible. » Mais autant que de l'autre côté, si ce que Pascal Paradis dit à propos que le troisième lien était déjà prévu d'avance à être abandonné avant que les élections soient déclenchées, mais qu'on allait quand même faire la promotion de, surtout dans la région de Québec et dans le cas de Jean Talon, bien que, bon, le troisième lien ne passe pas directement dessus, on a quand même une vue dessus. Ben, dessus, dedans Jean Talon, mais quand même une vue sur le troisième lien et qui aurait été éventuellement fait un moment donné, peut-être, même si dans la circonscription voisine. Quand même, ça reste un énorme point d'interrogation de tout dépendamment qui dit vrai. Ça peut être assez problématique, surtout dans le cas où ben, clairement, quelqu'un ment là-dedans, mais surtout au sens où si c'était prévu que le troisième lien allait être abandonné, avoir fait une campagne sur quelque chose prévu d'avance que ça n'allait être que, ou plutôt n'allait être qu'un argument politique, ça donne pas une belle presse, mettons. Évidemment, de part et d'autre, on dit que c'est l'autre qui ment. Paul Saint-Pierre Plamondon, en entrevue hier, dit carrément que c'est la CAQ qui sont des menteurs. Donc, c'est le ton qui est donné pour, on le rappelle, une élection partielle. Imaginez si c'était une véritable élection, mais c'est la symbolique, surtout. Au travers de Jean Talon. Parce que, outre l'ironie que la candidate sortante, qui part encore à cause des raisons familiales, s'était fait élire la première fois dans une partielle, rajoutée au fait que ça coûte encore une élection partielle quand la dernière élection vient d'avoir lieu, il y a même pas un an, fait que... En tout cas, quelques mois avant de faire un an. Donc déjà là, c'est un double strike. Là, on rajoute que l'un des candidats vedettes qu'on n'attendait pas a peut-être flirté avec un autre, ce qui n'est pas complètement interdit, mais qu'on y a promis que leur argument fort allait être jeté au vidange de toute façon. Ça sera à déterminer... Ben, en tout cas, en fait, non. Ça sera impossible à déterminer qui dit vrai. Mais pour donner mauvaise presse à l'un et l'autre, ça part fort. L'élection partielle n'est pas encore déclenchée, qui plus est. Mais si on se fie au brassage qu'il y a en ce moment, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une élection partielle déclenchée d'ici la fin de l'année. Quand surviendra-t-elle, ça reste à déterminer, parce que ça reste au bon vouloir du gouvernement de déclencher l'élection partielle dans un temps limité, mais plutôt que d'attendre en janvier, qui est, sauf erreur, le mois limite, et de faire campagne électorale pendant le mois de décembre, logiquement, la campagne partielle pourrait être déclenchée d'ici les prochaines semaines pour avoir lieu... Sait-on jamais en novembre et en même temps, ben c'est un mini-test pour le parti au pouvoir qui détient tous les pouvoirs s'il conservera son 90 sièges ou s'il tombera à un 89 sièges et en redonner un aux autres. Mais reste à voir comment ça se déroulera. Pour l'instant, les couteaux sont très affûtés et très, 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 très pointus. Disons ça comme ça. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de cette émission du deuxième service. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et le 94.3 Chiz à Québec. Glyph de PCI de qu'on vient d'entendre en musique. Tout de suite, une bonne annonce, celle de Blue Beetle qui a pris l'affiche au courant. Dernière semaine, nouveau film de DC, parce que oui, DC continue à faire des films.
Ok, je vais y aller en volant. C'est parti. Ouais!
Tu dois le forcer à sortir, vas-y.
Qu'est-ce que tu... T'es un génie.
Ouais, je sais, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, oh, attends, qu'est-ce que tu fais?
Et tu savais ce qui allait arriver à mon frère? Quand tu lui as donné cette arme de destruction massive?
Ça s'appelle le Scarabée. Je ne savais pas du tout qu'il allait s'activer. C'est lui qui te choisit.
Comment on fait pour qu'il me déchoisisse?
Acquisition terminée.
Qui a dit ça?
Test des systèmes dans 3, 2...
Réaction
excessive de l'eau.
Réaction excessive? Tu m'as kidnappé!
Menace imminente. Protection de l'eau. Hôte protégé avec succès.
Désolé! Ils vont faire quoi, le gouvernement, d'après vous, quand ils vont découvrir qu'un jeune détient ce genre de technologie militaire?
Va changer la face du monde avec le pouvoir du scarabée. Il est à moi.
Oh, il est pas content. Ok, écoute.
Oh, tell, baby.
Tu t'es trompé de personne. Tiens, moi, plus rien. Je te jure.
Il fallait protéger le monde.
J'ai un arsenal à ma disposition.
Tout ce que tu voudras.
Rendez neutre, Jaime. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer.
Que la fête commence!
L'amour que tu éprouves pour ta famille te rend faible.
Tu as tort. Ma famille, c'est ce qui fait ma force.
Oh, j'avais oublié à quel point c'était horrible.
Éliminer la famille.
Désolé d'être en retard.
Jaime,
t'es un super héros, cabron.
Tu es le scarabée bleu.
Je pense que là, on peut déployer l'arsenal.
Mieux vaut tard que jamais.
Nana?
Je recommande de nous éloigner.
Elle affiche depuis le 18 août officiellement de retour chez lui à Palmera City. Jamie Reyes découvre que sa famille risque de perdre sa maison. Il décide de les aider à trouver de l'argent en travaillant. Le jeune homme seconde sa sœur en faisant le ménage dans une demeure huppée. Voilà, cette dernière appartient à Victoria Cord, une femme influente d'affaires qui vient tout juste de mettre la main sur un scarabée extraterrestre capable de transformer tout être humain en armure super puissante. Par un concours de circonstances, Jamie se retrouve en possession de cette technologie. Il doit seulement trouver un moyen de la contrôler. Donc, il devient le scarabée bleu, le Blue Beetle, quoique Beetle, ça serait coccinelle, mais là, c'est un scarabée. Quoique Beetle, c'est aussi un scarabée. Enfin, Cloportre, ça dépend à qui on demande. Non, c'est scarabée. Beetle, scarabée. Bref. Je sais pas si j'ai aimé ça. Je l'ai vu mardi, parce que le mardi, c'est pas cher. D'ailleurs, parenthèse tout de suite, il y aura journée du cinéma cette année encore. Et dans les cinémas participants, les films seront à 4 $ ce dimanche. Donc, une occasion idéale d'aller voir Blue Beetle, parce que 4$, c'est pas cher payé pour un film en gros point d'interrogation. Sherbrooke, la maison du cinéma, Cinéma Galaxy, devrait l'a annoncé. Québec, il y a le cinéma Quartier. Bon, je suis certain, j'ose croire que les cinéplex de Québec aussi vont le faire, mais chose certaine, Cinéma Quartier devrait honorer la journée du cinéma avec ce tarif spécial, une journée seulement dimanche. Revenons à Blue Beetle. Selon plusieurs, ce serait le premier film du nouvel univers que l'ancien réalisateur des Gardiens de la Galaxie de Marvel, James Gunn, veut faire. Il a été engagé pour essayer de donner vie au film de DC. DC, c'est l'univers de Batman, de Superman. Les derniers films n'ont pas été particulièrement bien reçus, surtout qu'on a annoncé avant que ces 10 films-là sortaient que de toute façon, ils influenceraient plus rien. On pense notamment à Flash, on pense à Shazam, mais on peut quand même se rendre jusqu'à Black Adam. Donc, ces trois derniers films de DC ont fait des performances correctes. Dans le cas de Shazam et de Flash, sans plus. Même que Shazam a réussi à faire moins d'argent que le Green Arrow de Ryan Reynolds, qui n'est pas beaucoup d'argent, versus le budget que ça a été, qui a été mis là-dedans. Et contrairement à The Flash, Blue Beetle a de beaucoup meilleurs, plus beaux effets spéciaux, dit dans un bon français, que le sera The Flash avec les bébés 3D qui tombent du ciel. C'est particulièrement bizarre et étrange comme scène. Blue Beetle, le personnage principal est quand même fait en CGI, en effets spéciaux, et c'est beaucoup plus crédible. Pour ça, Blue Beetle, c'est un très beau film. On va dans une partie du monde qu'on connaît un peu moins. Bon, techniquement, c'est-tu le Mexique? C'est-tu un genre de Los Angeles? C'est comme un mix des deux. Mais en même temps, DC est bon pour avoir des villes qui n'existent pas pour vrai. Quoique, techniquement, le New York de Marvel n'existe pas vraiment non plus, mais on y va plus avec des villes qui n'existent pas, mais qui ressemblent beaucoup à des villes qui existent. Dans le cas de DC, donc Palem, c'est ça, je suis même plus sûr. Palmera. Donc, on va dans un univers un peu plus espagnol, un peu plus. Bon, c'est ça. Sont-tu mexicains? Sont-tu de d'autres origines d'Amérique centrale? On le sait pas trop. Fait que pour ça, c'est fun dans un sens, parce que des personnages espagnols, latinos, il n'y en a pas beaucoup dans ce genre de film-là. Fait que c'est comme un nouveau héros qui apparaît. Là. Bon, il y a eu, oui, Namor dans Black Panther, mais son acteur dans la vraie vie n'est peut-être pas une bonne personne, finalement, lui non plus. Donc, les chances de peut-être revoir Namor plus tard sont pas très bonnes. Mais dans ce cas-ci, Xolo Mariduena, qui joue le douanier, qui joue le rôle principal, il s'en sort bien. Comme je le disais, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas particulièrement bon non plus. T'sais, l'histoire est quand même de base. On installe un personnage, d'où pourquoi on suppose qu'il ne fait pas partie de l'univers actuel du Snyderverse, des films de Zack Snyder, qu'on pense que celui-là va être le début de la prochaine franchise parce qu'on a annoncé un nouveau Superman et une nouvelle Lois Lane récemment. Donc, à quel point Blue Beetle va communiquer avec ce Superman-là un moment donné? Y aura-t-il une nouvelle Ligue des Justiciers, même si techniquement Blue Beetle est un peu plus associé au Teen Titan, donc à Robin, le second de Batman, disons ça de même. Fait que, voilà. Qu'arrivera-t-il avec Blue Beetle dans l'avenir? On le sait pas. Il est là pour rester. Ça, on le sait. Même si le box-office, pour l'instant, n'est pas particulièrement bon. Peut-être sera-t-il bon sur la longueur. Peut-être aura-t-il une meilleure vie sur le temps. Quoique, est-ce qu'on va le garder au cinéma si longtemps que ça? La question est posée également, mais reste à voir ce qui arrivera avec lui. Avoir absolument oui, quand même, ben pas absolument avoir parce que c'est un bon divertissement. Ben non, l'humour est pas bon, fait que profitez de la journée à 4$. Ça peut valoir la peine d'aller voir le film. Personnellement, tiède. Disons un 6 sur 10, note de passage. Soyons généreux comme ça. On s'arrête encore une fois quelques instants. Au retour, une entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec les artisans du film Les Chambres Rouges qui ont pris l'affiche. En fait, non, je vais commencer par la critique et par la suite, on ira entendre l'entrevue. Donc, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIZ.
Écoute locale avec CHIZ 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7 présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de CHIZ 94.3 FM.
Mon client plaide non coupable, monsieur le juge.
Tu sais que c'est sa fête bientôt?
Dans 3 semaines, oui.
Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau?
J'ai un petit mot à dire à ces groupies. Celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit.
Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges.
Tu l'entends de voir ça, on entend ça?
Non, on l'entend jamais.
Comment tu sais ça?
T'es-tu genre une manne?
quelqu'un full célèbre ou genre une joueuse de poker full riche?
Il y a pas tant de chance au poker. Moi, c'est mon trip, là, les voir toutes perdre.
T'es ego.
Ben, c'est ça le jeu.
Le show est annulé. Je sais que Don Brand et Angie, mais là, ça a vraiment dépassé les bornes.
Vous n'étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien.
Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre?
Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout.
Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi?
Qui a pris l'affiche la semaine dernière, Les Chambres Rouges. Le procès très médiatisé d'un homme accusé d'avoir sauvagement agressé et tué des adolescentes à des fins de spectacle sur le Dark Web s'amorce à Montréal. Kellyanne porte une attention maladive à tout ce qui concerne celui qu'on a surnommé le démon de Rosemont, tout comme Clémentine qui a quitté Thetford Mines pour donner son soutien à l'accusé qu'elle croit innocent et victime d'un coup monté. Entre ses contrats de mannequinat, ses parties de poker en ligne, et ses talents d'enquêtrice amateur, l'obsession de Kellyanne pour cette sinistre affaire aura-t-elle raison de sa santé mentale? C'est le petit résumé qu'on peut en faire de ce film-là. Film, voilà, que j'ai vu la semaine dernière également. C'est une drôle d'ambiance. C'est un thriller. C'est psychologique, triple écologique, le terme qu'on lui a accolé. Parce qu'entre autres, ben justement, il y a tout ce questionnement-là de est-ce qu'elles font la bonne chose d'être les groupies de ce tueur-là. Phénomène qui existe pour vrai dans la vraie vie. Notamment le plus connu, Charles Manson, qui recevait des lettres d'amour de femmes qui disaient, même s'il avait tué tellement de monde, « Moi, je te crois innocent, je sais que t'as rien fait, marions-nous. » De plus près de nous, parce que ça s'est passé géographiquement plus près de nous. Luca Magnotta, qui a reçu des lettres d'amour et qui s'est marié tout en étant en prison, et pour ce qu'il a fait, parce que justement, sa vidéo, lui aussi, il avait mis en ligne lui-même cette vidéo-là. Dans le cas des Chambres Rouges, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas beaucoup, les groupies de meurtriers. Dans ce cas-ci, film québécois, on mélange quand même assez bien la réalité et la fiction. T'sais, une des scènes, puis on l'entendra dans l'entrevue également, que j'avais bien aimé, c'était l'espèce de talk show parodie de « Il y a du monde à la messe, tout le monde en parle, le show de Stéphane Bureau qui a été cancellé. » Tout ça mixé ensemble, ben ça donne un humoriste, une animatrice, une comédienne qui commente un procès sans y avoir assisté en disant « Hey, que ça n'a pas de bon sens. » Fait que t'sais, toute cette espèce d'idée-là aussi que tout le monde a une opinion, tout le monde veut faire, tout le monde dit « Ah, oh, ça a donc ben pas d'allure. » Et ces deux-là arrivent très extraterrestres en disant « Oui, mais il y avait peut-être pas ses raisons, mais il est peut-être pas si méchant que ça dans le fond. » Bon, cette confrontation-là va exister également. Bon, la jeune de Thetford, elle, c'est l'archétype complètement amoureuse du gars en disant ben non, c'est sûr qu'il n'a pas fait ça, c'était pas lui. Il y avait un masque, fait que c'est sûr c'était pas lui, versus le personnage principal de Kellyanne, qui est interprété par Juliette Garriépy, qui, elle, on comprend peut-être pas tout à fait un peu ses intentions. Ben, on comprend qu'elle trouve ça particulier, elle veut suivre ça, t'sais, elle comprend que ça n'a pas de bon sens, mais qu'elle se mette à enquêter de son bord, ce bout-là, il était peut-être un petit peu moins clair. Ça avait été relevé aussi dans une autre critique que les intentions de la jeune fille, que où y arrive, pourquoi soudainement elle est intéressée par ça, ce bout-là était peut-être un petit peu moins clair, mais sinon pour la proposition, pour l'univers qui est créé, et parce que justement, on n'a pas beaucoup de ce genre de film-là qui se fait au Québec, ça vaut la peine d'aller jeter un œil. C'est pas tout à fait une enquête policière, c'est pas tout à fait un film policier, même si ça se passe dans le palais de justice à Montréal, mais ça reste quand même une proposition qui est assez intéressante, qui sort de l'ordinaire, de ce qu'on peut voir normalement. T'sais, on est très loin de La recherche des hommes avec Léanne Labrèche pour Les hommes de ma mère ou un film dans le Bas-Saint-Laurent avec Patrice Robitaille pour Le temps d'un été. Fait que ne serait-ce que pour cette proposition-là qui est complètement champ gauche, ça peut valoir la peine. C'est pas violent, c'est pas gore, même si le sujet est un peu violent. T'sais, on voit pas en tant que tel, les scènes de meurtre. On les entend, on les devine, mais on les voit pas. Fait que dans le sens que pour une proposition un peu champ gauche, ça peut valoir la peine d'aller jeter un œil. Donc, à l'affiche, dans les salles, un peu partout, ici à Sherbrooke, c'est la maison de cinéma, à Québec, le CLAP, très certainement, qui présente le film en question. Courte pause au retour, cette présentation de cette entrevue réalisée avec Pascal Plante, Judith Gariepy et la productrice, je ne veux pas la nommer, Dominique Dussault. Voilà, quand j'ai reçu ici même dans les studios de CFAQ enregistré cette semaine.
Guerrière de lumière, partenaire perpétuel, les premiers rayons du soleil. Embrasse tes paupières, sortie du rêve intemporel où tout se passe à merveille. Je regarde les nouvelles, où c'est la paix, où c'est la guerre. J'ai connu des jours meilleurs, j'ai déjà vécu tout ça. Nos premiers préliminaires dans un univers parallèle, y'a de cela des millénaires. C'est ce désir ressuscité dans le tabernacle du temps. Les enfants des dieux dévorés pris entre les jambes du temps. Cette couleur intérieure, j'ai déjà vécu tout ça. César, j'étais Napoléon, j'étais Léonard, t'étais la Joconde, t'étais Jeanne d'Arc, reine des Amazones, t'étais Cléopâtre, j'étais Pharaon. Souviens-toi des empires que j'ai détruits pour te séduire, mais je me lasse de voir mourir ces innocents pour ton sourire. J'ai ri pour toi, tu pleures, t'as déjà vécu tout ça.
De retour au deuxième service sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz, j'ai avec moi en studio trois personnes qui ont tous participé au film qui a pris l'affiche la semaine dernière, Les Chambres Rouges. J'ai avec moi Pascal Plante, réalisateur et scénariste. Bonjour.
Salut.
Juliette Gariepy, actrice principale qui joue le rôle de Kellyanne. Bonjour. Et Dominique Dussault qui est productrice.
Oui, allô, merci de nous recevoir.
Je vais y aller d'entrée de jeu. Quelle a été la genèse des Chambres Rouges?
Dominique, c'est quoi la genèse des Chambres Rouges?
Oui, bien, c'est une très bonne question, parce que sinon, il n'y aurait pas de film.
Mm-hmm.
En fait, c'est une de mes amies qui a été très proche d'un procès hyper médiatisé et qui a été aux premières loges, justement, du phénomène des groupies, donc des femmes obsédées par des tueurs en série potentiels ou des mm-hmm. criminels. Et j'en ai parlé à Pascal parce que je trouvais ça vraiment fascinant. À ma connaissance, il n'y avait pas vraiment de film qui s'était penché sur ce sujet et aussi de le faire de manière respectueuse, dans la compréhension, sans jugement, pour comprendre pourquoi ce phénomène-là existe.
Oui, puis après, à partir de là, on s'est dit que ce serait des bons personnages de film. C'est un angle, tu sais, les groupies, la fascination, les gens qui sont périphériques autour des hommes horribles, tu sais, qui sont un peu d'une façon peut-être complice de tout ça. Ça, c'était l'angle, mais ensuite, ça, c'est resté en dormance pendant quelques années. Puis c'est un peu pendant la pandémie là, qu'on a remis un peu cette idée-là sur les rails. Puis là, moi, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est un peu glauque comme recherche.
Ouais, j'en doute pas.
Non, ouais, exact. Puis c'est l'aspect cybercriminalité, là, moi, ensuite, okay. qui a pris le pas. Parce que là, tout à coup, la groupie, j'avais de la misère à la mettre participative dans le récit. C'est un peu... il y a une difficulté de la rendre... Bon, mais via les crimes interactifs, tu sais, le tueur fictif du film, ben, lui, il fonctionne. Son modus operandi, c'est un peu comme... Il fait de la webcam, mais de la webcam de torture et de mm-hmm. meurtre. Bon, voilà. Et donc, le personnage devient participatif d'une certaine façon à ce monde horrible.
Parce que ce qui est particulier aussi dans ce... Parce que ce qui est à la mode, surtout, ça serait plutôt le côté judiciaire. Enfin, ça aurait peut-être été plus ouais. le procès qu'on aurait pu mettre de l'avant. Mais dans ce cas-ci, ouais. c'est vraiment...
celle qui tripe sur le meurtrier, dans le fond, qu'on suit davantage dans ce film-là.
Absolument. Non, absolument. Ben, tu sais, ça aussi, c'est le fait que la plupart des films, que ce soit des true crime ou des thrillers, là, ou, bon, ou des films de procès même, comme vous le dites, c'est souvent soit du point de vue policier ou carrément, des fois, des portraits des tueurs eux-mêmes.
C'est vrai.
Ça aussi, là, tu sais, on le voit beaucoup. Mais encore une fois, il y avait comme un troisième point de ce triangle-là qui sont ben, tous les gens qui gravitent autour, les observateurs. Et donc, ouais, mais là, Juliette, elle incarne un personnage qui est devenu autre chose au fil de l'écriture. Hein. C'est devenu un personnage vraiment plus complexe, tu sais, qu'une simple femme qui serait obsédée par le tueur. En tout cas, elle est plus, c'est plus évasif que ça, l'interprétation qu'on en fait. Puis on est plus métaphorique un peu.
Ben, je me tourne vers toi. Comment tu l'as abordé, ce rôle-là, quand tu l'as reçu? Est-ce que t'es passé par les auditions? Comment ça s'est passé pour toi?
Tout le monde demande ça comme si on avait une autre manière de... Mais oui, on a eu une belle audition d'exploration. Tu sais, c'était vraiment justement... difficile de, pour moi de comprendre exactement les intentions, mais on en a full parlé. Puis concrètement, je me suis rendu compte que oui, elle est différente, mais elle est comme nous, en fait, comme les humains à un certain niveau dans notre nouvelle conception du monde. Notre tolérance à ce qui est peut-être plus violent a tellement augmenté, puis notre niveau d'empathie a changé, notre égoïsme. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un miroir sur le reste du monde, n'est pas si différente que nous, là, tu sais. Mais ça a été, of course, une super belle préparation, puis c'était pas facile. Puis maintenant que le film vit chez les autres, on dirait que j'apprends à la connaître encore mieux parce que les gens sont tellement riches avec... Vu que, tu sais, c'est comme
en
une page blanche.
Tu veux dire? Ouais,
c'est presque
ça.
Une page blanche, ce personnage, même si elle est très... Il y a comme des informations très concrètes, là. Le monde arrive avec des propositions vraiment... intéressante qui m'aide à la comprendre encore mieux, en fait.
Moi, j'accueille vraiment ça, d'ailleurs, là, les interprétations des autres. T'sais, évidemment, nous, on avait un plan très précis. T'sais, nos demandes de subvention, par exemple, ils étaient très claires sur bon, qui est ce personnage, quelles sont ses motivations et tout. Mais ensuite, il y avait un plaisir, effectivement, de créer une aura plus mystérieuse un peu autour du personnage, autour du film. Puis oui, laisser libre cours au... Moi, il y a plein de films qui ont été formateurs dans mon parcours qui le plaisir même était d'en discuter par la suite, puis de tester comment on l'a reçu, tu sais.
Est-ce que c'est, entre autres, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir faire les questions-réponses que vous faites, entre autres, ce soir à Sherbrooke?
Nous, ça nous fait toujours plaisir, en fait, d'accompagner les films. On fait ça pour le public, pour échanger avec le public. Donc, peu importe, on aurait fait des questions-réponses.
Okay. Oui. Non, ben non, vraiment, tu sais, parce qu'il y a quand même, à part le tournage où il y a plein de gens, il y a tellement de moments solitaires dans la création, tu sais, d'une œuvre que, puis tu sais, mettons, le théâtre, ben, ça vit, par l'art vivant, ça vit toujours avec un public, tu sais, la musique, ça vit, tu sais, en concert devant un public, mais le cinéma, on dirait, pourrait, dans un monde dystopique, vivre sans interaction avec le public, mais ce serait donc triste. Puis nous, moi, c'est ça, vraiment, j'aime discuter, j'aime recueillir. Puis c'est pas juste dans un sens, un question-réponse. T'sais. C'est pas juste moi qui vous donne. Moi, j'apprends énormément aussi. Puis même quand on fait des festivals de films à l'étranger, par exemple, on vient de Tchéquie, puis les questions qu'on avait, par exemple, en République tchèque, puis là, on va faire d'autres festivals à l'automne. Le regard est un peu différent. Puis moi, ça m'aide à comprendre les stimuli concrets, en fait, de tenter le pouls des questions qui nous sont posées, peut-être.
Fait qu'il y a pas, on pourrait dire qu'ils n'ont pas les mêmes références, c'est-à-dire, mais les mêmes réflexions par rapport au film comparativement à un public québécois, peut-être?
Oui, c'est ça, effectivement. Mais tu sais, comme je vais donner un exemple concret, mais comme par exemple, bon, pas dans le connaissance des Chambres rouges, mais tu sais, moi, j'ai accompagné aussi beaucoup mes courts-métrages avant. Puis dès que tu le présentes aux États-Unis, ils te posent toujours la question, ah, est-ce que ça va être un long-métrage plus tard? Mais ça, au Québec, parce que pour eux, c'est leur conception même, là, par exemple, un court-métrage, c'est souvent un proof of concept pour quelque chose d'autre. Bon, donc, c'est anecdotique, mon exemple, mais mon point, c'est ça nous aide un peu à comprendre, effectivement, l'autre puis les cultures aussi des autres et puis que ce soit aussi des fois même certains grands centres versus des centres périphériques, la région, tu sais, je veux dire, comme là on est à Sherbrooke, j'ai hâte de voir moi comment le public sherbrookois va comme quelles questions
ils voudront pas déménager à Montréal.
ouais peut-être.
Mais justement, qu'est-ce qui en ressort de ces discussions là surtout sur quoi on accroche peut-être un peu plus?
Les questions fréquentes qui nous sont posées, quelles sont-elles?
Ben, j'imagine...
Des questions autour de Kellyanne, je pense.
Ouais, ou de comment on peut faire pour aller dans un psyché comme ça. Moi, j'ai l'impression que les gens veulent savoir. Ouais. Mais sinon, j'ai... Je sais pas, on dirait que les gens... c'est malgré que les informations sont pas toutes là, il y a comme une clarté aussi du récit, puis les gens veulent plus savoir le processus créatif de nous versus l'histoire et vie en tant que telle. Je pense pas que les gens sont comme j'ai rien compris.
Ouais, ou je c'est veux pas comprendre des questions. Ouais. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une acceptation d'un certain laisser aller à l'interprétation dans certains trucs. Puis même en fait, moi c'est drôle parce que je réponds toujours un peu à demi mot quand on me demande quelque chose de super précis, d'une interprétation, d'une motivation spécifique d'un personnage. Je suis comme ben je peux vous donner ma version, mais vraiment je suis un peu précieux de parce que j'aime ça, après ça, je veux pas priver, en fait, les gens de leur interprétation à eux. Par contre, si on me demande une question spécifique sur comment t'as fait tel plan, t'es dans la salle d'audience, le plan séquence sur la grue télescopique, ça, je peux vous en parler. Briser le mystère, ça me fait absolument plaisir. Non, mais c'est ça. Donc, il y a plein de choses où je suis pas du tout... je vais être très généreux de mes réponses, mais les interprétations, c'est le fun. Les
c'est un thriller psychologique, donc ça fait partie de l'expérience d'essayer de deviner, décoder.
Absolument. J'imagine que ça a été souvent posé aussi, mais c'est un genre qu'on fait pas beaucoup au Québec, le thriller psychologique, peut-être une couche de plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a attiré peut-être vers ce genre-là?
Ben oui, il y a le fait que ça se fait pas beaucoup au Québec, mais c'est pas juste le Québec, on fait pas, c'est drôle à dire là, tu sais, je suis très québécois puis je l'embrasse à 100%, mais je voulais aussi arriver, je pense, avec une proposition qui est originale, même un peu dans la proposition contemporaine point, tu sais, oui, c'est un thriller, oui, il y a des codes spécifiques, c'est certains cinéastes qu'on peut peut-être un peu déceler, bon, mais encore une fois, j'ai dit, tu sais, le point de vue du film, le genre de personnage, le genre de questions que le film soulève, je me plais à penser que c'est l'original. L'originalité du film n'est pas limitée au Québec d'une certaine façon. Mm-hmm. Mais oui, dès qu'on parle, si on referme sur nous-mêmes, là, c'est vrai qu'au Québec, il détonne. Puis pourquoi pas, tu sais, je pense que les gens, ils sont prêts à accueillir des propositions d'auteurs singulières, différentes, mais le geste, il est généreux. Je pense vraiment pas que c'est un film qui est vraiment accessible. Tu sais, même le côté gore, le côté angoissant, en fait, il n'y a pas de gore. Tu sais, c'est pas du cinéma d'horreur de minuit vraiment trash. Tu sais. Oui, il y a une difficulté dans le sujet, mais quand même, il y a quelque chose de... Il est invitant, le film, là.
Mais en fait, si on fait partie de la relève, et il y a plusieurs jeunes cinéastes. Pour vrai, le cinéma québécois se porte extrêmement bien en ce moment. C'est une superbe année, puis il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. Et je pense que c'est ça aussi, on veut inviter le public à se dire, OK, les films d'auteurs québécois sont accessibles. Absolument. C'est important de ne pas juste catégoriser les films grand public versus les films d'auteur.
Ouais, ou de généraliser tout le cinéma québécois, c'est le genre de drame gris qui ressemble à... Non, mais absolument, tu sais, puis je pense que depuis quelques années, ça devient très, très clair. Si ça ne l'était pas, là, je pense que comme, OK, non, c'est pas... Le cinéma québécois, c'est pas un genre en soi, c'est à l'intérieur de ça, là, il y a des propositions singulières. Puis ben la nôtre, oui, effectivement, en ce moment, elle fait un peu contre-offre par rapport aux autres films possible, mais ouais, pourquoi pas?
On l'a un peu abordé tout à l'heure. Ça a été peut-être un peu difficile d'intégrer le personnage de Juliette, ou en tout cas, il y a eu plusieurs versions de ce personnage-là. Est-ce qu'on peut dire que celui de Laurie Babin, Clémentine, serait comme une version de ce personnage-là, vu qu'elle, c'est vraiment l'amoureuse complète versus l'autre qui est mystérieuse puis qu'on comprend peut-être pas toujours ses motivations?
Absolument, ouais. En fait, son on ne peut plus opposer, en fait.
C'est ça.
Puis c'est comme Dominique l'a dit, le phénomène social, donc les groupies, appelons-les comme ça, les femmes obsédées par ces tueurs-là, les gens qui gravitent autour de ça, c'était le point de départ, mais c'est très complexe comme phénomène. Mm-hmm. Puis pour que le film ait une certaine valeur sociologique quand même, ben, il ne pouvait pas reposer sur les épaules d'un seul personnage, puis surtout pas juste sur le personnage de Juliette, parce que c'est probablement le cas de figure le plus marginal, tu sais, l'espèce de personnage un peu sociopathique, attiré, quasiment quasi j'allais dire sexuellement, là, mais tu sais, par l'horreur, là, ouais. C'est vraiment... Ça, c'est, on s'entend que c'est très plus marginal que, par exemple, le personnage de Laurie Babin, donc Clémentine dans le film, qui, elle, est une genre de défendresse un peu aveugle, un peu confuse, tu sais, un peu perdue, peut-être, du tueur. Puis d'avoir, donc... C'est un mini-échantillon. Si j'en avais fait un documentaire, une autre forme d'art, peut-être, tu sais, un exposé, ben, il y aurait eu peut-être 12 personnages de femmes obsédées par le tueur. Okay. Ouais. Là, il y en a deux aux opposés, puis ensuite, on peut un peu se dire que tout entre les deux est possible et plausible. Mm-hmm.
Parce qu'une scène que j'aimais beaucoup, c'était la scène du talk show parodie dans une église. Ouais. Moi, j'avais bien aimé le public d'enfer aussi. Ouais, comme mais ligne.
Ouais, toutes les pannes de le champ lexical des églises et de la religion. Ouais.
Puis justement, elle est confrontée, ce personnage-là, ouais. Parce que justement, on lui dit, mais voyons, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. Est-ce que ça a été... est-ce que c'était déjà pensé qu'elle devait être comme... Là, on va te rouvrir les yeux, c'est le temps... Ouais.
Ben, tout est déjà pensé. Quand vient le temps de tourner, on explore peu. Mm-hmm. Mon point, il y a une scène où il y avait de l'impro, c'est une scène de squash, mm-hmm. entre Clémentine et Kellyanne, mais okay. Pour revenir à la scène dont tu parles là, on ne voulait pas, à m'insécuriser à cette scène-là, je ne voulais pas qu'elle soit complètement parodique, je voulais qu'elle soit quand même plausible. Mm-hmm. C'est un mélange de radio intense, de show de télé français, puis de tout le monde en parle, ish, là, bon bref, peut-être. Mais oui, c'est ça, elle se fait confronter, mais elle apporte quand même des arguments qui ne sont pas si mal, c'est-à-dire la présomption d'innocence existe, vous n'étiez pas là, vous le jugez sur une base émotive qui n'a pas rapport. Oui. Bon, bref. Donc, elle n'est pas complètement discréditée. C'est mm-hmm. juste que, bon, elle le fait peut-être pas avec... elle n'est pas outillée émotionnellement puis intellectuellement pour s'auto-défendre. Là. Oui. Mais bon.
C'est bien dit.
qu'est-ce qui motive Kellyanne, d'après toi, à vouloir... prendre autant part au procès, à vouloir comme être dans l'action, si mm-hmm. on veut?
Ben, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs réponses, là, mais une des réponses, c'est vu qu'elle n'existe pas dans le monde réel, c'est-à-dire genre pas d'amis ou de famille ou comme d'emploi qu'elle côtoie dans la futilité de nos relations sociales, elle n'a pas ça. Elle existe à travers, par contre, cette sphère secrète de l'Internet dans une communauté anonyme. Elle existe. Mm-hmm. Et en se rapprochant du tueur, en accédant aux vidéos de meurtre, là, non seulement elle existe, mais elle devient comme une célébrité avec une notoriété dans ce monde secret-là. Ça, c'est une des, peut-être, des réponses que j'ai trouvées, que c'est comme une manière de devenir immortelle, de se rapprocher mm-hmm. de cette célébrité-là, de ce tueur, parce que souvent, même c'est ça les théories qu'on dit, là, des femmes que... On est dans une société où notre colère ou notre prise de décision ou notre pouvoir n'est pas du tout célébré, même au contraire, est tassé. Fait que d'aller vers quelqu'un qui est un homme violent, qui a une notoriété parce qu'il est violent, genre puissant, puis c'est une manière de nous vivre cette genre de liberté-là en se rapprochant d'eux. Mais Laurie Babin, elle a fait une genre de théorie de qu'est-ce qui arrive avec Kellyanne après, tu sais.
Okay.
Là, on peut s'amuser, il y a plein d'histoires, dans le film, il y a un moment donné où le monde qui travaille au procès, genre les policiers, ils la remarquent, puis ils sont un peu, ils doutent de pourquoi elle est là, cette fille-là, puis ils ont comme des eye contact. Puis, tu sais, à la fin, on peut-tu dire des punchs?
Semi.
En tout cas. Non, mais en tout cas, à la fin, c'est comme si Laurie, elle disait, imagine si maintenant Kellyanne, elle serait engagée par des policiers comme ça, hyper pro dans le web, puis que finalement, sa déviance devient un aide.
La plupart des hackers, ils finissent genre aussi
à faire
le mal, entre gros guillemets, puis ils finissent un peu par utiliser leurs compétences pour le bien.
C'est comme si elle peut vivre.
Il y a un élément de rédemption à la fin du film quand même. Le film, il finit sur une bouffée de lumière, un tantinet quand même. Puis, tu sais, si je peux juste faire un mini rebond, je rebondis sur Juliette, super bon, ce qu'elle vient de dire, c'est pas pour invalider rien, mais je renchéris en disant, je pense que Kellyanne est un peu morte en dedans, puis c'est une recherche. Tout le monde veut se sentir vivant d'une certaine façon. Fait que, tu sais, ces recherches d'adrénaline, là, c'est flirter avec le danger. Il y a quand même quelque chose de juste pour un être à moitié mort. Il y a comme. Ça devient un peu.
Mais moi, je pense que c'est la raison principale. Ouais. C'est ça. C'est de toujours monter le radar à plus haut, aux sensations. Ouais. Puis, tu sais, mettons, on connaît pas son passé, mais normalement, quand les gens enfants se font habituer à des montagnes russes émotives, ben dans ta vie plus tard, tu vas toujours rechercher quelque chose de plus fort, quelque chose, tu sais, que ça sera jamais comme la première fois, tu essaies de monter la tolérance.
Exact.
Puis on l'a tous à un certain niveau, mais Kellyanne, c'est comme booster.
Il y avait une volonté de ne pas donner ces clés-là. Tu sais, des clés, le cinéma est bien fort sur les clés psychanalytiques. Tu sais, on fait telle chose parce que tel élément du passé. Okay, tout ça. Et c'était carrément, j'en fais un point d'honneur de ne pas donner ces réponses-là. Puis même la banalité du mal dans le film, tu sais, le tueur, on ne sait pas exactement pourquoi il a commis les actes horribles. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup plus terrifiant de se dire qu'il y a une société qui a permis à ces gens-là d'exister, de commettre l'horreur. Et voilà. Puis je pense que tout à coup, c'est beaucoup plus c'est bien plus à propos du miroir, c'est-à-dire se regarder nous-mêmes ou notre propre comportement, ou pourquoi même nous, on binge-watch des séries true crime, puis qu'on trouve ça bon, puis qu'on veut en regarder plus, puis plus, puis plus. Puis que, il y a peut-être un mea culpa à avoir du point de vue même médiatique, tu sais, comment on représente les tueurs. Et si on en fait des rockstars, ben faut-il se surprendre qu'il y a des fans, tu sais. Donc, mon point, c'est ça. Il y a aussi tout ce rapport-là là, dans le film qui, je pense, qui est important.
En terminant, qu'est-ce qu'on souhaite au bracelet rouge? Au bracelet rouge. Les chambres rouges, les chambres rouges.
On leur souhaite des belles choses.
Les bracelets rouges,
eux
aussi.
On leur souhaite aussi des très belles choses.
Les bracelets rouges, une saison 3, 4.
Mais nous, en fait, notre vœu le plus cher, c'est que le public continue d'être au rendez-vous. On est très contents de cette première semaine. On espère que ça continue. Et à l'international, le film va voyager presque dans une quinzaine de festivals dans les deux prochains mois.
Un bel automne.
Oui,
puis qui continue à susciter des conversations, tu sais, qui continue à coller à la peau des gens, tu sais, que les gens, après l'avoir visionné, qu'ils mettent pas juste, ils rangent pas dans un casier bien loin dans leur tête, puis qu'on l'oublie, là, tu sais. Je pense que, je me souhaite ça.
Puis on veut des théories sur Reddit.
Oui.
Aussi.
On veut des subreddits.
On veut des fan theories. On aimerait beaucoup ça.
Donc, on attrape en salle Les Chambres Rouges, c'est à l'affiche depuis le 11 août. On rattrape également Nadia Butterfly sur tout.tv Extra, les faux tatouages sur tous-les-québec.tv. Société Distinct, Club Illico, Juliette, s'en vient. Maison des Folles est en rediffusion sur UniTV et avant le crash est également sur tout.tv. Donc, merci à vous trois.
Merci.
Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIS 94.3. À la semaine prochaine. Salut!
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Be outside, you know what's going on, bitch.
Salgo con la dog ready pa' toser. En el vaso hielo dentro y siete más. Los carros serán es por la prenda cartel. No me gustaba el liceo, pero sí sumar. Salgo con la dog ready pa' toser. En el vaso hielo dentro y siete más. Los carros serán es por la prenda cartel. No me gustaba el liceo, pero sí sumar.
Ellos dicen que son es malandro. A mí me huele como raro. Muchos que tienen complejo de sapo. Dos con los capos, con todos los tacos. Hicimos un pacto, sangre por tu barrio. Seguimos haciendo esto, fumando, escribiendo textos. Vivo siempre en el camello, pero moriré por esto. No mamo por puesto, si puedo pago y no resto. Si lo quiero manifiesto, en un fiesta me enfiesto. Par de birra y humo espeso, si me tiran salgo ileso.
Paz como en NASCAR, electric como dinero.